voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Joël Gayot rencontre Mona Heftre. Ce soir, la folle histoire du Grand Magic Circus.
Bonsoir Mona Heftre, voici le troisième temps ce soir de nos entretiens. Après la jeune provinciale et la jeune parisienne qui mordait la vie à plein dents, nous voici en 1974, vous avez 22 ans, c'est très jeune. 22 ans, tout est à faire, rien n'est encore joué. Et vous faites une rencontre décisive, celle du metteur en scène Jérôme Savary. Vous épousez alors le destin d'une troupe, sa troupe, le Grand Magic Circus. Le Grand Magic Circus, il faut le savoir, sera emblématique d'une vie collective, une vie de saltimbanque, avec des spectacles qui ont fait date, qui ne ressemblaient à rien, qui étaient de ce qui se faisait dans l'institution, qui étaient complètement délirants, pas du tout inscrits dans la norme. Et vous allez participer à l'aventure du Grand Magic Circus, période, j'imagine, intense, avec beaucoup de souvenirs. Quand on y songe, pour vous, Mona Heftre, on se dit, ça devait être le bonheur, cette vie-là, est-ce que c'était le bonheur?
Qu'est-ce que le bonheur? On pourrait dire, nous nous sommes tant aimés, voilà. Pour citer Ettore Scola. Jérôme Savary m'a offert un cadre, il m'a pris dans ses filets, on va dire, il ne m'a pas attrapé au lasso, mais pas loin. Et puis, grâce à lui, j'ai fondé une famille, j'ai eu des enfants, j'ai eu un métier, j'ai gagné ma vie. J'ai connu la vie d'artiste à fond et tout de suite. Parce que quand je l'ai rencontré, c'était à la gare d'Orsay, il jouait de Moïse Amao. J'avais déjà vu Robinson à Sigma, ça m'avait pas vraiment convaincu. Mais là, quand je suis arrivée à la gare d'Orsay, j'ai vu un spectacle brillantissime, très bien construit. Avec des grands enfants qui s'amusaient comme des fous, c'était irrévérencieux, c'était irrespectueux, en même temps d'une grande cruauté. C'était comme des enfants qui s'amusaient, ils poussaient le bouchon très 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 loin. Il y avait une espèce d'hystérie collective avec le public qui était fou. Il y avait un orchestre très rock'n'roll, le guitariste prenait des chorus à la Jimi Hendrix, ça déménageait vraiment quoi. Et au milieu de ça, il y avait Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud. C'était l'endroit à la gare d'Orsay où tout Paris branché venait. Il y avait Topor, il y avait Copy, il y avait Gottlieb, tout le monde était là. Donc cet homme m'a apporté un métier, donc je vous dis, mais surtout, il m'a stabilisé. Et je pense qu'il était temps, parce que j'avais pas du tout l'intention de me caser, absolument pas. J'habitais à droite, à gauche, j'habitais souvent chez mes amoureux, j'avais pas d'endroit à moi. J'ai jamais payé un loyer jusque-là, jamais. Donc j'étais très très aventurière. Et donc, voilà, je me suis posée. Je me suis posée.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est grâce à Colette Godard, journaliste, que cette rencontre a eu lieu, puisqu'elle a parlé de vous à Jérôme Savary en lui disant « Va voir le striptease chez Marcel, chez les Forains, il y a une jeune femme qui peut t'intéresser pour tes spectacles. » Il est venu et il a à peine osé vous regarder.
Oui. En fait, je l'ai rencontré donc à la gare d'Orsay. J'étais venue avec un ami photographe qui me l'a présenté à l'entracte. Il était tout en sueur dans son peignoir au bar là, de la gare d'Orsay, avec son maquillage qui coulait. Bon, j'ai regardé ce mec. Bon, il était plus vieux que moi, hein, pas du tout de ma génération.
Pas du tout, il avait combien de plus que
10 ans. Oui, mais ça comptait.
Ah, 22 ans, ça compte. Oui.
Et puis, il m'a dit, on se reverra. Et effectivement, c'est Colette Godard qui l'a amené à la baraque. Quand il est arrivé dans la baraque de foire, il est venu dans la caravane, avant de commencer le show, Marcel ouvrait une boîte de cassoulet, puis on mangeait comme ça, en se préparant. Il n'était pas très à l'aise. J'ai vu tout de suite qu'il n'était pas très à l'aise. Il m'a juste dit, je veux vous engager pour jouer dans mon film, si vous voulez bien. Voilà, j'ai écrit un scénario avec Roland Topor, qui s'appelle La fille du garde-barrière. Bon, je ne peux pas vous donner le scénario, il est en écriture, mais on va tourner dans 6 mois. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai dit oui, bien sûr, ça m'intéresse. J'avais jamais fait de cinéma. Et puis il n'est pas resté pour me regarder me déshabiller. Il est rentré à Paris parce qu'en fait, il continue à jouer de Moïse Amao. Voilà. Et puis après, ça a été l'été, les vacances. Il m'avait dit là, je pars en vacances, mais à la rentrée, en octobre, je serai à la Porte Saint-Martin où je fais mon nouveau spectacle qui s'appelle Goodbye Mr. Freud. Et puis passez et je vous donnerai le scénario. Donc je suis arrivée à la Porte Saint-Martin, pas tout de suite, je suis venue pratiquement à la fin des répétitions. Et donc on est allé boire un verre, il m'a expliqué voilà, l'histoire de la fille du garde-barrière, une histoire incroyable. C'était un film muet en noir et blanc, burlesque, érotique, le premier film burlesque érotique, légèrement accéléré, un peu à la Chaplin, où je faisais un peu la Paulette Godard, quoi. Et lui faisait mon père. Pas de scénario, toujours pas de scénario. Donc après ce rendez-vous, bon, j'ai dit, bon, écoutez, merci, quand vous aurez le scénario, vous me l'enverrez. Puis il me dit, non, mais ne partez pas, revenez avec moi à la répétition, venez, j'aimerais bien que vous restiez un peu à la répétition pour voir. Il se trouve que là, je tombe sur Copy.
L'auteur de théâtre.
Voilà. Mmh. Donc Copy, c'est un copain. En fait, je crois que je lui avais vendu de l'herbe, ou je me souviens plus. En tout cas, il m'avait présenté un dentiste qui soignait les artistes à l'œil. On était devenus copains. Ça, c'est, je me souviens de ça. Et puis Savary me dit, ben, vous voulez pas monter sur scène avec Copy là, puis vous improvisez un numéro. Bon, alors moi, je monte sur scène et puis j'improvise une danse avec Copy. Et puis à la fin, il dit, bon, vous êtes engagé dans le spectacle. Alors Ghebelli, l'administrateur, était pas content du tout parce que le budget avait déjà explosé. Et puis je suis rentrée comme ça dans la troupe. Et là, ça a été un moment très important pour moi parce que la Porte Saint-Martin, c'est un très beau théâtre. Et puis pour la première fois, je suis rentrée par l'entrée des artistes. Et quand j'ai franchi la porte là, de l'entrée des artistes, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, quoi. J'avais comme une espèce de légitimité, en quelque sorte. Et puis, voilà, on a fait le spectacle. En même temps, on a commencé à tourner le film. Bon, moi, je rentrais tous les soirs chez moi. J'avais un amoureux, un réalisateur avec lequel j'habitais, rue du Cherche-Midi, qui lui aussi avait de très beaux yeux verts. Et puis, Jérôme me ramenait chez moi le soir. Et puis, je voyais qu'il était, intimidé. Et il attendait peut-être que je fasse le premier pas. Donc, les mois passent. Et puis, les 4 mois passent exactement. Et puis le jour de mon anniversaire, donc de mes 23 ans, il me dit qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Et là, j'ai dû dire quelque chose comme toi, ou tu sais bien, ou un truc comme ça. Voilà. Mmh. Et puis c'est comme ça que ça a commencé notre histoire.
Alors il y a l'histoire entre vous, et puis il y a l'histoire avec cette troupe, dont je disais qu'elle ne ressemblait à aucune autre. Mmh. On peut en parler de cette troupe, le Grand Magic Circus, parce que finalement, si on se repenche sur les spectacles que vous avez faits, les esthétiques, les formes, les audaces qui étaient les vôtres, on se dit, est-ce qu'aujourd'hui, ça serait encore possible, de cette manière-là, peut-être pas. En tout cas, ça serait rattrapé ou récupéré par l'institution. Mais vous étiez des fous furieux, au fond, des fous furieux de la performance, des fous furieux de l'exhibitionnisme. Et en même temps, il y avait des vraies propositions.
Bah, c'est-à-dire, d'abord, il n'y avait pas de subvention. Donc,
vous n'aviez pas de subvention.
Le Magic Circus n'avait pas de subvention. Donc, Jérôme était gérant du Magic Circus. Donc, ça veut dire qu'il était toujours fauché, parce que dès qu'on avait un peu d'argent, c'était l'URSSAF qui nous piquait tout. On avait une petite maison rue Lacépède où on habitait. L'URSSAF nous l'a pris aussi. Bon, ça demandait beaucoup de rage pour essayer de se faire entendre. C'était difficile de trouver des endroits où travailler. Donc forcément, ces difficultés financières, matérielles, c'était un moteur pour être impertinent. On avait peur de rien, on n'avait rien à perdre. Quoi. On ne devait rien à personne, on était extrêmement libre. Savary est un homme de scène, une espèce de bête de scène. Moi, quand je l'ai vu à la Gare d'Orsay, j'ai compris à quel point c'était une bête de scène. Il avait une force extraordinaire. Il savait mener une troupe. Je crois que son grand talent avec le Magic Circus, c'est qu'il savait choisir les gens. Quand il rencontrait un acteur, il demandait pas un CV. Il demandait pas qu'est-ce que vous avez fait avant. Si l'acteur lui plaisait, il lui faisait confiance. Et à ce moment-là, qu'est-ce que les acteurs faisaient ? Mais ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Ils avaient tous 20 ans, 22 ans, 23 ans. Ils étaient tous très très jeunes. Ils venaient de tous les pays. Il y avait une Ghanéenne, il y avait une Suédoise, il y avait un mec qui venait de l'Uruguay, il y avait une fille qui, enfin, une Anglaise. C'était une espèce de des arguments toujours n'étaient pas finalement importants parce que c'était un prétexte, l'argument, l'histoire pour faire un tas de numéros comme des grands enfants qui s'amusent avec beaucoup de cruauté et le public adorait ça. Il faut dire que l'époque aussi était un peu morose. Dans le théâtre, il ne se passait pas grand-chose. Et puis, je vous dis encore une fois, le fait de ne pas avoir de subventions nous donnait beaucoup, beaucoup de liberté. Après, avec les subventions, c'est devenu autre chose. On a un peu changé de ton. Et je pense que le Magic Circus a disparu. L'esprit Magic Circus a disparu avec les subventions, ça c'est certain. Et les lieux. et les moyens. Donc ça demandait énormément d'invention. On n'avait pas de costumier, on allait aux puces, on bricolait nos costumes tout seul. On faisait tout tout seul. Moi, je faisais les costumes de Jérôme, je cousais les étoiles sur les rideaux, je faisais tout, la batterie, je ne savais pas faire de batterie, je faisais du trapèze, je n'avais jamais fait de trapèze. Bon. Tout était possible. Et Savary avait cette pogne, comme dit Topor, il était capable de redresser une représentation à la force du poignet. Il avait ce talent de galvaniser le public, parce qu'il était un peu mégalo quand même, hein, et puis très démago aussi, donc il avait son public qui tenait, et puis derrière nous, on courait. Et donc moi j'ai adoré cette période parce que j'aimais camper un personnage avec trois plumes, un bout de tissu, un chapeau, une démarche, voilà. Et dans les spectacles, les acteurs du circus faisaient que ça. Traverser l'histoire, c'était lui qui parlait à son public, qui racontait l'histoire, par exemple, de l'humanité dans Noé Zamao, ou dans tous les spectacles, c'était pareil. Et nous, les acteurs, on était comme des fous derrière, on changeait sans arrêt de personnage, on apparaissait là, on disparaissait là, et cette espèce de force, de spontanéité, de générosité a fait notre succès, ça c'est certain.
Mais on peut dire que le Magic Circus, c'était au croisement de toutes ces disciplines que sont le théâtre, la performance, la danse, le musical. C'était un creuset où toutes ces formes se trouvaient finalement.
Absolument. En fait, les gens faisaient ce qu'ils savaient faire. Par exemple, si...
Vous étiez vous-même au fond?
Totalement. Moi, si j'avais envie de faire des claquettes, j'allais prendre quelques cours et je disais, tiens, je fais un numéro. Ils me disaient, vas-y, fais ton numéro. Il laissait énormément de liberté à ses comédiens, sachant que lui, il récupérait tout ça, avec toute cette jeunesse, toute cette énergie, pour raconter une histoire au public qui n'était en fait qu'un prétexte. Et lui-même avait des grands, grands numéros où il parlait de la mort, des choses dramatiques, atroces. Et puis nous, derrière, voilà, on faisait des personnages. On n'illustrait pas simplement.
Oui, c'était pas juste de la pantomime.
Non,
hein.
Du tout. On amenait notre personnalité. Donc... c'était un terrain de jeu génial, quoi. Génial.
Mais vous avez le sentiment, Mona Heftre, que vous avez, au fond, défriché quelque chose avec le Grand Magic Circus. Préparer le terrain pour peut-être aujourd'hui des troupes qui sont sur ces mêmes lignées et qui ne savent sans doute pas à qui elles doivent de pouvoir être sur ces lignées-là.
Peut-être, je ne sais pas, en France, en tout cas en Allemagne, oui. Parce qu'en Allemagne, par exemple, Castorf,
Franck Castorf
a dit qu'il avait fait du théâtre parce qu'il avait vu Savary, parce qu'on a fait une grande carrière en Allemagne. Les Allemands nous ont adorés, vraiment adorés. Et ici en France, oui, il y a sûrement des compagnies qui ont été très inspirées, imitées sans doute, mais le Magic Circus, c'était Savary sur scène. Les textes du Magic Circus, il y en a qui ont été édités par l'avant-scène, ça tient pas la route, quoi. Il fallait avoir lui sur scène et sa troupe avec cette énergie. Alors après, est-ce que les générations futures dont vous parlez se sont emparées de ça? Je pense qu'il en reste quelque chose, certainement. Oui, certainement. C'était européen en tout cas, parce qu'il y avait des troupes à l'époque qui étaient incroyables. Hein. Il y avait les Pip Simons, par exemple, qui était un groupe anglais. Je me souviens, ils avaient fait Andy Music sur l'Holocauste avec le lead de Schubert. Moi, j'avais été... emballé quoi, par cette forme de théâtre, ou les Hauser Orchater, par exemple, qui faisaient des spectacles extraordinaires aussi, tous avec des groupes de musique très rock comme nous. Hein. Donc c'est une forme de théâtre des années 70 qui a vraiment revisité le théâtre de l'époque. On avait le droit d'investir un plateau de théâtre sans faire du théâtre comme ça avait été fait auparavant. On avait le droit à ça. On n'était pas obligé d'aller jouer dans la rue ou sous chapiteau. On avait droit aussi d'aller dans les théâtres, y compris le théâtre de Chaillot. Et c'est ce qu'on a fait. Et quand on a créé Mélodie du Malheur et qu'on l'a joué à Chaillot, ça a été un triomphe.
Et comment vous regardez justement les autres metteurs en scène et tout? Parce que vous disiez qu'il ne se passait pas grand-chose, mais en fait, si, il y avait quand même cette époque où Antoine Vitesse commençait à apparaître. Donc là, un théâtre très aride, un théâtre très sérieux, et il n'était pas le seul. Et puis vous?
Mais moi, je ne connaissais pas Vitesse à l'époque, du tout. En fait, vous savez, on n'allait jamais au théâtre avec Jérôme, jamais. On était tout le temps sur les routes. On était tout le temps à droite, à gauche. On n'allait jamais rien voir. On était vraiment, on avait le circus où on jouait énormément. Et pendant les périodes où on ne jouait pas, on se retirait dans notre bergerie, dans l'Aude. Hein, et on voyait personne. Juste mes sœurs avaient le droit de venir. On vivait vraiment entre nous, en tribu, en fait, comme quand j'étais enfant. Et Jérôme avait ça aussi. La famille, c'était très important pour lui. Il avait besoin de se retrouver avec sa famille, ne pas parler de théâtre. Il voyait, il aimait beaucoup mon père, il parlait avec mon père de vigne. Et il avait planté des cèpes de Bordeaux là-bas dans le sud avec mon père, il s'amusait follement avec mon père là-dessus. Donc on n'était pas du tout dans le milieu du théâtre traditionnel, moi je ne le connaissais pas, je ne savais pas ce qui se faisait. J'avais entendu vaguement parler de Vitesse, je n'avais jamais vu aucun spectacle de Vitesse. C'est après, plus tard, que j'ai découvert le théâtre. Le vrai théâtre comme j'aime maintenant, comme je vais très très souvent au théâtre maintenant. J'adore le théâtre, le vrai théâtre avec des textes, et j'ai vu des très beaux spectacles.
C'est drôle ce que vous dites. Vous dites le vrai théâtre comme si le magique, ouais, c'était pas du vrai théâtre.
Non, c'est pas du théâtre.
Aussi, mais c'était aussi du théâtre.
Non, c'était du spectacle, mais pas du théâtre.
Ah.
Non, c'était du spectacle. Jérôme m'a monté Le Broglie Gentilhomme, donc il s'est attaqué à Molière. Il a voulu s'attaquer à... Parce que Jérôme écrivait toutes ses pièces quand même. Hein. Il a jamais monté un auteur... Jamais, c'était lui qui écrivait tout. Topor écrivait les paroles des chansons. Gottlieb a écrit aussi pour nous, mais il ne montait que ses propres textes. Quand il a voulu faire du théâtre, il a monté Le Bourgeois Gentilhomme. Et Le Bourgeois Gentilhomme, moi, je me souviens quand je faisais Dorimen, je me suis trouvée totalement, mais alors désemparée, parce que j'avais jamais dit un texte de théâtre. Et j'étais un peu comme ces actrices du muet qui passent au parlant, quoi. J'étais toujours burlesque, un peu caricaturale dans la pantomime. Je ne savais pas comment s'y prendre. Et par contre, lui, Savary, il savait toujours, façon Magic Circus, mener ses caricatures poétiques, comme disait Nougaro. Et puis lui, il a été un Monsieur Jourdain, mais génial, quoi. Juste.
Vous avez dit de ces spectacles que vous avez créés avec le Magic Circus, Mona Heftre, c'était notre folle jeunesse. La pudeur, on ne la plaçait pas dans la nudité.
Mais parce que la nudité, mais tout le monde était nu à l'époque. Les garçons aussi étaient nus.
La pudeur, vous la placiez où alors?
La pudeur, c'est très personnel. C'est la pudeur, je sais pas, du sentiment, par exemple.
Est-ce que il y avait des limites que le Grand Magic Circus ne franchissait pas?
Oui, il n'y avait pas de vulgarité, aucune vulgarité. Il y avait beaucoup de grossièreté, d'irrévérence, mais aucune vulgarité, absolument pas, parce qu'il y avait de l'humour. C'est ça qui faisait la différence. Il y avait des pirouettes, il y avait des fantaisies, donc tout pouvait passer, on pouvait tout faire passer. Et je vous dis encore une fois, les hommes étaient aussi bien à poil que les femmes. Hein. Bon, c'était pas... Jérôme, lui, ne s'est jamais montré nu sur scène, mais par contre, ses comédiens étaient tout le temps nus.
Et il y avait aussi du travestissement dans les spectacles.
Bien sûr, parce qu'on jouait avec le genre, évidemment. C'était... Même Jérôme a joué, j'ai une photo de lui où il est en train de faire du flamenco habillé en danseuse de flamenco, avec sa corpulence, c'était irrésistible. On jouait avec le genre, bien sûr qu'on jouait avec le genre, mais au musical, on jouait avec le genre. Hein. Donc on faisait du musical. Moi je trouve qu'on était plus proche du musical que du théâtre, dans la mesure où les acteurs n'avaient pas de texte, c'est-à-dire finalement. On avait des petites scénettes à jouer, qui était très, voilà, très marqué, à gros traits, comme ça. Et lui-même, il avait une manière de s'adresser au public, pas du tout comme un acteur, mais comme un monsieur loyal, un peu... Des fois, il parlait avec son accent, comme ça, parigois, un peu forcé. C'était un personnage, quoi. C'était pas un acteur. Après, quand j'ai vu comme il a joué Monsieur Jourdain, là, je me suis dit, c'est un grand, grand, grand acteur, vraiment.
Est-ce que vous diriez, Mona Heftre, de ces spectacles du Grand Magic Circus dans ces années 70, début 80, qu'ils étaient aussi militants parce que libertaires, parce que peut-être un peu anards, parce que finalement totalement hors des clous et disant de la société quelque chose qu'il était sans doute nécessaire de lui dire? Les années 70, c'est politiquement en France pas terrible quand même, il y a encore beaucoup de couvercles mis sur les mœurs, sur les conduites. Et vous étiez là. Vous étiez là comme un miroir aussi.
Certainement, bien sûr. Bien sûr. On était libertaires anarches, comme vous dites, ça c'est certain. Politiquement, on était à gauche, évidemment. Hein. Même à l'extrême gauche, on va dire. Mais en même temps, on n'a jamais été dans un parti politique, parce que, aussi bien lui que moi, on s'est toujours méfié des groupes. Hein. On était quand même assez individualistes. Et puis, encore une fois, je vous dis un peu sauvage, parce qu'en dehors du travail, on ne voyait personne, quoi. Donc c'est vrai qu'il fallait inventer quelque chose. L'époque était un peu triste avant le Magic Circus, certainement, oui. Il y avait des tentatives un peu partout. Il y a eu le Rotterdam en Allemagne aussi. Il y avait des troupes quand même qui faisaient des choses, comme je vous ai dit, le Pip Simons ou Auserer Kater. Il y avait des troupes comme ça. Le Living, c'était...
Julianne Beck et Judith Malina.
Julianne Beck, le Living, c'était sinistre. Alors eux, ils avaient un discours politique, mais ça allait trop loin et c'était chiant, quoi. Vraiment. Et puis il y avait des spectacles aussi qui étaient un peu comme ça alternatifs où finalement on s'ennuyait. Hein, parce que il y avait un long discours Voilà, il y avait un engagement politique qui était énoncé, il y avait des revendications qui étaient énoncées, tout était dit. Au Magic Circus, on disait pas, on montrait, on faisait, en jouant comme des sales gosses, quoi. Et à ce moment-là, on pouvait tout se permettre, y compris de se moquer des politiques, se moquer de la religion. On avait un Christ qui tombait de la croix. Enfin, on allait très, très, très loin. On ne respectait absolument rien. Et surtout pas la morale judéo-chrétienne. Mais alors, certainement pas, quoi. Tous les interdits, justement, on avait envie de les mettre en lumière. On jouait avec ça. On jonglait avec ça. Toujours, dans une forme de musical. Voilà. Toujours d'une manière un peu légère. Mais on dit beaucoup de choses avec ça. Avec ce ton-là.
Il y a un endroit, je crois, où vous n'êtes pas allé, et ça, ça paraît incroyable, c'est le Festival de Nancy, créé par Jack Lang, et qui était le lieu où venait le Brad Puppet, où venaient toutes les troupes étrangères qui déménageaient un petit peu, qui faisaient du bruit. Et pourquoi pas vous ? Est-ce que vous auriez eu le désir d'y aller ? Et vous arrivez à analyser pourquoi ?
Je me souviens qu'il y a eu effectivement des propositions pour jouer peut-être au Festival de Nancy, ça ne s'est jamais fait. On était un peu à part quand même. On n'était pas très aimés. Je pense qu'on suscitait beaucoup de jalousie parce qu'on avait un succès fou avec le public. On nous tapait dessus en disant qu'on était des démagos. Moi, je me souviens avoir joué à Strasbourg, justement. Pas au TNS, hein, mais à côté, dans un champ où on avait monté notre chapiteau. Et les acteurs du TNS sont venus. Interrompre le spectacle en disant « c'est pas possible de traiter les femmes comme vous le faites, ça varie, salaud et tout ça ». Et Jérôme a arrêté le spectacle et là, comme Jérôme, il avait ce talent extraordinaire de tout récupérer, tout ce qui pouvait se passer dans le public.
Il en faisait un spectacle.
Donc finalement, ces gens-là, ça tenait pas la route, leurs arguments. Au bout d'un moment, ils étaient tournés en ridicule et puis ils partaient, quoi. Mais on avait quand même, c'est vrai, il y avait une critique venant de ces milieux, entre guillemets, de théâtre un peu politisé, qui avait un discours, je vous dis, comme le Living, par exemple, qui nous ennuyait profondément. On s'en moquait d'ailleurs beaucoup. Nous, on était des électrons libres. On devait rien à personne, on n'avait pas de fric, on n'avait pas de subvention, c'était notre argent à nous. Donc, on était libres, au fond. Et donc, je pense que ça a gêné notre liberté et notre succès, a fait beaucoup de jalousie.
Et puis cette liberté, petit à petit, elle a évolué puisque Jérôme Savary a été d'abord nommé à Montpellier, directeur d'un lieu, puis nommé à Lyon, directeur d'un autre lieu, et enfin, le voilà nommé à Chaillot en 1988. Il restera directeur à Chaillot de 88 à 2000, je crois.
Et, oui, c'est possible.
Et pour vous, c'est un peu le moment où ça s'arrête, l'histoire, cette nomination à Chaillot. C'est peut-être pas immédiat. En tout cas, ce qui démarre pour lui n'est pas pour vous un commencement, Mona Heftre.
Parce que Jérôme a continué à travailler énormément comme metteur en scène sans la troupe. Il a été très, très sollicité partout. Il a monté des opéras partout, jusqu'aux États-Unis. Il a monté Guerre et Paix. Il n'a pas arrêté de monter des opéras et des pièces de théâtre un peu dans le monde entier. Donc la troupe était un peu mise de côté, on va dire. Et puis les spectacles qu'il a fait en France avec ce qui restait de sa troupe, il restait plus grand monde d'ailleurs, parce que les gens, ça tournait au Magic Circus, c'était pas toujours les mêmes. Hein. Il y a des gens qui ont fait 2-3 spectacles et qui ont disparu. Et puis, il n'y avait peut-être pas des rôles très intéressants pour moi ou que je n'étais pas capable de jouer aussi quand il a commencé à avoir des moyens. Donc à Chaillot, c'est vrai, il avait des moyens. Il était fasciné par les vedettes, Jérôme. Et puis, il avait envie de travailler des acteurs qu'il faisait rêver, des vrais acteurs de théâtre. Il avait envie de mettre en scène des acteurs de théâtre, mais à ce moment-là, lui ne jouait plus. Donc, c'est ça la différence. C'est qu'il s'est positionné comme metteur en scène. Il n'était plus avec sa troupe comme acteur sur scène. C'était plus le saltimbanque, le monsieur loyal. Donc là, ça changeait tout. Il n'allait pas mettre les gens de sa troupe mélangés avec des acteurs comme Weber ou, il y en a eu plein d'autres. Des acteurs, des vrais acteurs de théâtre. Donc nous, les gens du Magic Circus, on s'est un peu retrouvés orphelins, on va dire. Moi, je me suis retrouvée un peu orpheline de la troupe, c'est vrai. J'ai travaillé beaucoup moins. J'ai rendu mon porte-jartel, comme je dis. Puis voilà, je suis partie. Je me suis occupée beaucoup, beaucoup de mes filles, parce que là, j'avais un deuxième enfant. J'ai adoré être mère, vraiment. J'ai adoré ça. Et j'ai passé des bons moments avec mes enfants dans le sud, dans le midi. Là, j'avais fait venir mon père, qui a créé un verger merveilleux. On a enlevé des tonnes de pierres dans la caillasse, là-bas, dans la garrigue, et il a fait un jardin extraordinaire. Donc voilà, mes enfants allaient à l'école au village. On allait faire les devoirs sur la plage. c'était quand même la belle vie aussi. J'ai aimé cette vie-là. Donc je me suis mise en retrait et lui continuait à... Il était toujours dans les avions. Il passait nous voir de temps en temps, mais il était toujours parti. Jérôme, il courait après le succès. Il ne refusait jamais une mise en scène, jamais.
Mais est-ce que vous, Mona Heftre, qui aviez jusque-là vécu une vie avec les forains, une vie d'itinérance avec le Grand Magic Circus, est-ce que vous aviez vraiment envie d'avoir le toit de Chaillot sur la tête ?
Non.
Chaillot, cette grande maison,
non.
Cette grande demeure,
non.
Cet héritage de Jean Villard,
non.
Avec tout ce que ça supposait, non. Aussi d'obligations, d'installations, d'embourgeoisement peut-être aussi, je ne sais pas.
J'avais pas cette réflexion-là, disons que c'était trop grand pour moi, trop grand. Et puis, de toute manière, moi, je n'étais pas metteur en scène. C'était lui, chef de troupe. Donc, j'étais sa femme, c'est vrai. Donc, dans la vie privée, il y avait quand même suffisamment de remous dans son sillage pour jamais s'emmerder. Donc, c'était quand même intéressant. Et puis, je l'ai beaucoup suivi, parce que quand il partait en Allemagne, il avait envie d'avoir, quand il rentrait de répétition, sa famille. Donc, moi, je suis venue très souvent avec lui. Donc, j'ai habité en Allemagne dans beaucoup, beaucoup d'appartements, de maisons avec lui. Quand il rentrait, c'était très agréable de se retrouver. Et puis quand on partait avec les poches pleines de Dutch Mark et qu'on retournait là-bas dans notre maison dans le sud et qu'on faisait des travaux, on était heureux aussi. Donc finalement, j'avais trouvé ma place. Ma place, c'était un peu d'être la femme du chef, présente quand même, comme beaucoup de femmes de génie, on va dire. Mais artistiquement, je suis un peu restée sur la touche parce que je pense qu'il n'y avait plus de place pour moi dans son travail. Et puis au bout d'un moment, je crois qu'on est arrivé au bout de notre collaboration aussi bien dans la vie que sur scène. Donc les choses se défont, ça pouvait pas durer éternellement. Je pense que la folie, l'euphorie du Magic Circus, ça marchait quand on était des baladins. Et puis après, quand c'est devenu, quand on était les autres des institutions, et que Jérôme a un peu laissé tomber la troupe, franchement, je n'avais pas envie de m'accrocher, quoi. Moi, j'aime bien me sentir à ma place. J'aime pas, je suis vachement fière.
Mais est-ce que votre place, justement, est d'être à une place assignée ? J'ai l'impression que dans votre ADN, il y a gravé ce mot de saltimbanque, Mona Heftre.
Ah, mais complètement.
Et depuis très longtemps.
Et depuis très longtemps, bien sûr. Parce que j'aime les marginaux. J'ai toujours aimé les marginaux. Quand j'écoute à la radio, que j'entends des gens sérieux, tous ces gens qui affirment des choses, des gens extrêmement cultivés. Moi, je trouve que c'est des perroquets, ces gens-là, quoi. Enfin, moi, j'aime les saltimbanques, j'aime les gens qui inventent. C'est vrai que j'aime ce monde un peu comme ça, on va dire, fabriqué avec ce qu'on est, avec ce qu'on aime, pas des choses fixées. Donc j'ai toujours cherché une famille de théâtre. Après le Magic Circus, j'ai pas trouvé de famille de théâtre, j'en ai pas retrouvé. Donc je me suis retrouvée solitaire. J'ai fait la maman, j'ai adoré ça. Après, on a fait un dernier spectacle avec Jérôme qui s'appelait Bye Bye Showbiz. Donc c'était bien nommé. Et ça commençait à la NPE. Ça peut être un grand succès. Et puis, il y a eu encore le son d'une nuit d'été à Avignon, où là, il m'a quand même proposé de faire Titania, parce que j'ai beaucoup insisté, parce qu'il ne voulait pas de moi. Mais j'ai beaucoup insisté, donc j'ai quand même fait Titania. Je pense que je commençais à faire des progrès comme actrice. Et puis, mes filles étaient dans le spectacle, elles faisaient des fées. Donc j'étais encore une maman, mais dans le théâtre. Et j'ai tourné beaucoup avec mes filles dans les arènes et les théâtres en plein air en Italie. Et ça, c'est des souvenirs inoubliables.
Merci beaucoup, Mona Heftre. Et à demain.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Joël Gaillot avec Mona Heftre. À voix nue, réalisation Lionel Quentin, prise de son Alexandre Abergel, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.